What's Next fait une pause cet été, mais j'avais envie de reparcourir ce qui avait été produit et diffusé jusqu'à présent. What's Next a été conçu très rapidement pendant l'été 2022. Je savais que j'allais publier une newsletter payante hebdomadaire et j'avais envie de proposer une vitrine gratuite sur ce projet. Alors, on fait plus simple comme vitrine gratuite, mais comme beaucoup de créateurs de contenu, ça faisait des années que j'avais envie de faire un podcast. J'avais déjà essayé, puis ça n'avait pas marché. Mais un podcast, c'est juste un contenant. Sur quoi? Qu'est-ce que j'allais faire? Comment? Dans quel cadre? Parce que bon, voilà, parler dans un micro, c'est marrant, mais il vaut mieux quand même avoir des choses à dire. Alors, la newsletter What's Next devait parler de moi, de mon changement professionnel à un moment délicat de ma vie. La fin de mon activité de guide, nouvellement, moi étant nouvellement maman après un long parcours PMA, j'avais du mal à voir la lumière au bout du tunnel. En plus, on était en plein dans la fin de la pandémie. Le projet What's Next, initialement, c'était de parler de tous ces changements pas à pas, semaine après semaine. C'était un projet très personnel sur, de façon plus générale, le changement professionnel au fil d'une carrière. L'idée du podcast a germé et l'envie de parler à des personnes qui avaient elles aussi changé, qui avaient elles aussi des trajectoires de vie non linéaires, s'est fait. Parce que je n'avais pas envie que ce soit uniquement quelque chose sur moi. J'ai choisi de discuter avec des personnes en lien avec mon récit. Et si une semaine, par exemple, je parlais de mes études, eh ben, j'étudiais quelqu'un qui avait fait les mêmes études que moi. Si une semaine, je parlais d'Instagram, je voulais parler de quelqu'un qui avait réussi sa transition professionnelle grâce à Instagram. Ou bien encore, quand j'ai parlé d'édition, ben, je voulais parler avec une éditrice. Ça, c'était le principe de la première saison. Vous pouvez toujours la lire sur What's Next. La newsletter qui s'intitule donc whatsnextmathilde.substack.com, c'est mon récit, pas à pas, vulnérable, drôle par moments peut-être, exhaustif, lent, intéressant, voilà tout ça, je l'espère, vous avez réagi au fil des semaines, vous qui étiez aussi parfois en reconversion professionnelle, vous qui aimez lire des récits intimes dans l'esprit un peu des blogs des années 2000 et 2010, vous avez été nombreuses à suivre ce récit. Aujourd'hui, en fait, cet été, je voulais faire un été des redifs et je vous propose de redécouvrir l'une des premières interviews que j'ai faites avec Julien Segol, qui est chanteur lyrique. Alors, Julien, je l'ai interviewé justement dans cet épisode qui était en lien avec ma newsletter sur les études, parce qu'on a fait les mêmes études et on n'est pas vraiment arrivé au même point dans la vie. À nouveau, je vous donne rendez-vous sur whatsnextmathilde.substack.com pour lire le récit, soutenir le projet, participer, savoir ce qui se passe, même si cet été c'est en pause. Et si vous n'aviez pas écouté cet épisode, eh bien, je vous souhaite une très bonne écoute.
Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Merci aux abonnés qui rendent possible ce projet. Rendez-vous sur whatsnextmathilde.com pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le quatrième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je reçois Julien Segol, qui est chanteur lyrique. Full disclaimer, Julien et moi, on est amis de longue date, car on a commencé nos études ensemble il y a déjà 20 ans. Vous allez me dire, mais Mathilde, tu n'es pas devenue comme Julien, chanteuse d'opéra? Eh bien non, on a fait nos études ensemble, mais nos chemins ont divergé. Cette semaine et la semaine prochaine, dans les récits 7 et 8 de What's Next, je raconte mes propres études, ce que j'ai fait, où je les ai faites, les questionnements au fil de l'eau, ce qui m'a guidée, ce que j'ai évité de faire, et où j'imaginais que ça me mènerait. Et puis, ce que j'en pense aujourd'hui, avec du recul, regret ou pas. On entend souvent dire, ou en tout cas, j'ai souvent entendu dire que les études, c'était la meilleure partie d'une vie. Ce que je trouve assez tragique quand on pense que ça dure que quelques années, au début de la vingtaine. Tout ça, je le raconte dans mon récit What's Next, auquel je vous invite à vous abonner. Je mets toutes les infos en note de cet épisode. S'abonner au récit, c'est recevoir tous les vendredis un nouvel article dans votre boîte email. C'est le journal de bord de mon questionnement professionnel. Et puis, s'abonner dans une formule payante, c'est aussi ce qui rend possible ce projet, y compris ce podcast. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous touchent, vous font sourire, réfléchir, ou même, je sais pas, vous donnent envie de devenir vous aussi chanteur d'opéra, eh bien venez soutenir mon travail en vous abonnant sur la plateforme Substack. Je mets toutes les infos en note du podcast et sur le compte Instagram What's next, Mathilde? Dans cet épisode de podcast avec Julien Segol, on discute de comment on ose se lancer dans une carrière d'artiste, de musicien en l'occurrence. Quand est-ce qu'on se dit que c'est plus qu'une simple passion et qu'on pourrait en vivre? Dans ma conversation avec Julien, il sera question de légitimité à se présenter comme artiste. Il sera aussi question d'argent, d'objectifs et de potentiels regrets. Ce podcast est organisé en trois temps. D'abord, ma conversation avec Julien Segol, chanteur lyrique. Puis, je vous retrouve pour un débrief ou une sorte de ce que je retiens de la conversation. Et enfin, on terminera par la rubrique « Dans mes DM Instagram ». J'aurais pu demander à Julien de le chanter, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un truc dans ce que je fais, il y a quelque chose. Allez, place à Julien et à notre conversation. Je voulais d'abord retracer ton parcours universitaire et le début de ta vie professionnelle. Et je voulais voir en fait comment nos deux parcours, ils ont commencé pareil, mais ils n'ont pas du tout fini au même endroit. Mmh. Et je vais donc retracer ta vie. Tu me reprends si je me trompe.
Ça marche.
On s'est rencontré en classe prépa en 2002, en Cagnes, à Toulouse. C'était facile de te repérer parce que tu étais l'un des rares mecs dans cet univers majoritairement féminin. En plus, tu étais sympa.
Ouais.
On devient copains. Et quelques années plus tard, on se retrouve en Italie. Cette époque, est en stage à l'ambassade du Vatican à Rome.
Ouais.
Et moi, je fais Erasmus à Bologne.
Ouais.
On a fêté le nouvel an 2007 sur les marches de la place d'Espagne à Rome ensemble. C'était génial, on se souvient.
Sur la coupole de Saint-Pierre.
Ça, c'était le 1er janvier.
Ah oui, c'est vrai. Right.
L'année suivante, on se retrouve à Paris. Toi, t'es à Sciences Po et moi, je fais un master dans l'édition. Et on hang out. On part même en vacances en Inde. Vacances notoires où on a failli rentrer plus amis.
Bredouille. C'est vrai.
Pendant ton cursus universitaire, tu suis des cours de chant au Conservatoire de Paris. Et je me souviens t'avoir vu chanter dans une église, je crois dans le 10e. Et je me suis
Saint-Vincent
dit...
Saint de Paul, ouais.
Je me suis dit, il rayonne, il est magnifique. Il adore faire ça.
Ah.
Mais je me souviens aussi de toi osciller entre le monde du chant et l'exigence intellectuelle. Parce qu'après Sciences Po, t'es entré en thèse à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, et t'as fait une thèse en musicologie.
Mmh.
Là, j'ai un peu perdu trace dans les années qui suivent.
Je peux compléter pour faire plus tard.
Après ta thèse, j'ai l'impression que t'as vraiment aidé de te lancer dans le chant tout en jonglant avec des choses à côté, comme par exemple une mission culturelle pour préparer le dossier de candidature de la ville de Metz comme ville de musique auprès de l'UNESCO.
Ouais.
T'as fait du mannequinat et t'as fait des trucs un peu fringe, comme être guide touristique dans les boîtes électro de Berlin pour des touristes danois.
Ça, il faut pas le dire.
Faut pas le dire.
Si, si.
Alors, c'est là où j'ai perdu. Alors, en fait, ma question pour commencer, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ouais, c'est une bonne question. Donc là, je suis effectivement dans la phase de ma vie qui était en fait de tout temps l'objectif prioritaire, mais ça a mis un peu de temps à arriver. Là, je suis chanteur lyrique. L'essentiel de mon activité, c'est le chant.
Quand tu dis l'essentiel de ton activité, c'est que tu fais encore autre chose à côté?
Ouais. En fait, j'ai commencé à me professionnaliser dans le chant. J'ai commencé à me professionnaliser en 2019, 18-19, juste après avoir terminé ma thèse. Et j'étais encore, cette période-là, j'étais encore en post-doc. J'avais un poste de post-doctorant à Berlin, mais j'ai décidé que, en gros, c'était la dernière étape, que je me lançais à ce moment-là dans le chant lyrique. Bah, mauvais timing, puisque après on a pris 2 ans de pandémie et ça a été très très... En fait, c'était vraiment, vraiment, vraiment... C'était difficile pour tous les artistes, mais démarrer dans ce contexte-là, c'est un peu... c'est vraiment pas un bon plan.
Mais attends, pourquoi tu dis que tu as démarré à ce moment-là? Parce que tu chantais quand même avant, quoi.
Oui, c'est ça. La musique a toujours été présente, mais j'ai pris la décision de me professionnaliser et de faire que ça. Si tu veux, jusqu'à cette date, pour diverses raisons. D'abord, je ne me sentais pas prêt vocalement à faire que ça. Et je faisais des concerts à droite à gauche, mais c'était bon, ça soit dans le cadre de mes études au conservatoire ou des choses de jeune artiste, etc. Enfin, c'était toujours une activité, enfin une activité qui était toujours présente, mais c'était une activité mineure malgré tout. Et j'avais bien d'autres contraintes par ailleurs, par les autres activités que je faisais de recherche ou autre. Donc là, pour moi, c'était le moment où j'ai pris une décision d'en faire ma priorité numéro un et de tout faire pour que ça marche. Donc de rentrer dans un système, etc.
Mais alors ça, c'est marrant que tu me dises que tu es postdoc, que tu as été postdoc, parce que je suis sans doute une mauvaise amie, parce que j'ai zappé cette phase-là. Enfin, pour moi, c'était... Quand tu as fini ta thèse, tu t'es dit, bon, la recherche, c'est pas vraiment pour moi, je vais vraiment me donner à fond dans le champ. Et j'avais l'impression que tu t'essayais de te mettre dans le champ dès le départ, tout en ayant des contrats à côté liés à ta formation de Sciences Po pour gagner de l'argent, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. Mais quand j'ai fini ma thèse, si tu veux, je me suis retrouvé quand même... tu te retrouves avec plus rien, donc il faut assumer une transition. Le postdoc, pour moi, c'était vraiment la transition idéale parce que c'était pas un plein temps, j'avais beaucoup de temps pour continuer à faire, pour mettre en place justement plus de choses du côté du champ et puis essayer de rendre ça viable aussi, ce qui allait pas se faire comme ça en 6 mois.
Mais quand est-ce que c'est devenu ton objectif numéro ? En fait, quand est-ce que tu t'es dit que tu pouvais être chanteur professionnel ?
Quand est-ce que je me suis dit que j'allais faire du chant ? Et ça a été très très clair. Quand j'ai eu 16 ans, c'était un peu une sorte d'illumination suite à une expérience que j'avais faite, une expérience personnelle de gens que j'ai rencontrés. Donc à 16 ans, ça a été très clair, j'ai imprimé, j'étais exposé au chant comme ça, au chant lyrique, et c'était un petit peu la première fois pour moi. Même si la musique était présente autrement avant, comme je faisais du violon, j'écoutais beaucoup de... J'étais dans la musique instrumentale, mais le chant, la révélation du chant, ça a été à 16 ans. Et de ce jour-là, ça ne m'a jamais quitté. C'était une évidence que je voulais faire ça. Je ne savais pas trop quand, comment, etc. Mais à partir de ce jour-là, j'ai toujours... On va dire, j'ai bricolé autour du chant, d'une manière ou d'une autre, et en continu, à peu près. Et la question de... Se professionnaliser, c'est venu bien après. J'ai mis longtemps, je disais tout à l'heure que j'ai, pendant une longue période, là où je faisais ma thèse, etc., je ne me sentais pas prêt vocalement. Je pense que ça a été le critère décisif. J'ai le désir, s'est mis en place avec le désir de chanter, le désir d'être professionnel. Ça a toujours allé de pair et je savais que si je voulais faire du chant, ça voulait dire à terme. Trouver un moyen pour faire exister ça professionnellement et être un chanteur lyrique. Mais je me suis senti prêt, j'ai franchi le pas, au moment où je me suis senti prêt vocalement. Donc techniquement, je me suis dit, là c'est bon, je peux assurer sur une scène.
Est-ce que et c'est ça, quelqu'un ça qui te l'a dit ou...
Non,
c'est
non.
C'est un diplôme, non?
Non, oula, c'est surtout pas un diplôme, parce que j'ai vu en traversant les conservatoires que... On sort parfois des institutions avec un label, quel qu'il soit, un diplôme de musique ou d'autres choses, et puis en fait, on se heurte à la porte du réel dans le monde professionnel, et on se rend compte qu'il y a parfois un gap, une distance importante entre ce qu'on nous a vendu et puis la réalité de l'endroit où on se trouve, enfin, à quel niveau on est. C'était pas un diplôme qui m'a permis de m'affranchir et de me dire ça y est, c'est bon, je suis prêt. C'était vraiment, il n'y a pas eu un jour date hein, où je me suis dit ça y est, je suis prêt, mais c'est une période dans laquelle j'ai enfin bénéficié de bons enseignements techniques, de profs que j'ai trouvés, ça a mis du temps, etc. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à me préparer vocalement et je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte petit à petit par... tu demandais est-ce que quelqu'un t'a dit ça y est, t'es prêt, c'est pas aussi daté que ça, mais encore une fois, ça, j'ai bénéficié des retours, de l'accompagnement des gens avec lesquels je travaillais, que ce soit mon coach, enfin mon professeur de chant, les coachs pianistes avec lesquels je travaillais, le retour des amis qui m'entendent. C'est vraiment un processus un peu large. Et dans cette phase-là, c'était dans ces années-là de 2018-19, je me suis senti suffisamment solide pour pour assumer vocalement d'être sur scène face à...
J'ai un cliché sur le chant parce que j'y connais pas grand chose. Donc toi, tu es baryton basse, c'est une voix grave. Est-ce que ça va aussi avec l'âge ? Est-ce qu'on peut pas être baryton basse à 20 ans ? Est-ce que c'est mieux d'attendre d'avoir 40 ans ?
Presque. Oui et non. En fait, les voix, on est NAIT avec la voix qu'on a, par le travail et la technique, et effectivement la maturation du corps aussi au fil des années, la voix se développe. La tessiture dans laquelle on se trouve, elle nous est donnée et c'est le matériau de départ avec lequel on travaille. Donc ça, ça dépend pas vraiment de l'âge.
Du coup, ouais, c'est vraiment l'expérience qui fait les profs que tu rencontres, c'est l'expérience qui fait que tu deviens un jour, tu t'es juste meilleur maintenant qu'il y a 10 ans. Quoi.
Ouais. En tout cas, j'espère, ouais.
Et je reviens sur la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que c'est une question qui te gêne quand tu rencontres des gens inconnus en soirée ou par hasard ? Ça te gêne pas de dire « Ouais, je suis chanteur, t'assumes à 100% »
Ah bah, plutôt oui, je suis fier. C'est quelque chose que j'ai conquis, pourquoi j'ai beaucoup travaillé, et c'était surtout un désir de longue date d'arriver à ça, donc... C'est quelque chose que je vais plutôt revendiquer. J'ai aucune raison de ne pas assumer. En revanche, il y a eu une période où je naviguais un peu en eau trouble quand j'étais avoir un pied dans l'académie, l'université ou d'autres jobs que j'ai pu faire et un autre pied dans la musique. C'est pas toujours évident. Effectivement, j'ai remarqué dans mon expérience en France et à l'étranger, les gens ne réagissent pas de la même façon à ce genre de situation. Et ouais, parfois, il a fallu... il faut juste choisir qui on veut être à ce moment-là et sous quel genre on veut se présenter.
C'était un choix de vivre à Berlin ? C'était important pour la musique ?
Ouais, c'était pas vraiment une stratégie par rapport à la musique, mais... Tu as dit c'était important, oui. Ça a été même, je pense, un facteur décisif pour moi de m'établir à Berlin. Ça m'a permis de prendre une certaine distance par rapport à mon parcours. Mon parcours en France, au moment où j'ai quitté la France et j'ai déménagé, c'était un parcours très académique, avec une certaine pression sociale mise sur l'idée que si tu es dans telle et telle institution, si tu fais des classes prépa, si tu fais Sciences Po ou je ne sais quoi, il y a une pression que je sentais de continuer là-dedans, de réussir là-dedans et faire un pas de côté, ça aurait été mal vu. Enfin, je ne me sentais pas tout à fait affranchi de ça. M'établir à Berlin, ça m'a permis de mettre ça à distance et de vraiment trouver l'espace, une certaine liberté pour savoir quelle était vraiment ma priorité pour me sentir libre de faire le choix dont j'avais envie, en fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on se sent plus libre parfois. On peut se sentir plus libre quand on vit loin de là où on a grandi, quoi.
Ouais. Ça permet de mettre à distance peut-être même des préjugés avec lesquels on a grandi ou des trucs comme ça, et puis de s'interroger sur, on fait un peu table rase, on se dit bon, où j'en suis. Ce que j'ai bien apprécié aussi en arrivant à Berlin, c'est un autre rapport à... Nous, en France, en tout cas, peut-être c'est la bulle parisienne, mais on a quand même un rapport très, très, très fort à l'étiquette. On définit beaucoup qui tu es par où tu es passé, où tu as étudié, etc. Et ça a été vraiment rafraîchissant de débarquer dans un pays où... Sciences Po, ça évoque rien du tout pour la personne. Mmh. Et puis, il y a moins ce côté élitiste attaché à un prestige institutionnel. Donc, vraiment, ça a été un bon décrassage, on va dire. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Ça m'a permis d'avancer un peu plus loin dans mon parcours d'une manière un peu plus honnête avec moi-même en termes de ce vers quoi j'ai envie de me diriger et pas trop subir des influences de prestige social ou de trucs comme ça.
Et est-ce que je ne suis jamais allée à Berlin, mais j'ai cette image de Berlin, d'une ville qui est pas chère à vivre. Est-ce que c'était aussi un choix pour ça ? Non, tu as fait la grimace ? Non, c'est pas vraiment. C'est plus ça.
J'ai fait la grimace parce que c'est plus ça, mais ça l'était beaucoup plus quand je suis arrivé il y a presque 10 ans maintenant. Et ça, encore une fois, en venant m'établir ici, ce n'était pas non plus une stratégie où je me suis dit, enfin,
Ouais.
j'y pensais pas vraiment, mais c'était évidemment un facteur, un aspect bénéfique, corollaire.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors t'es pas obligé de me répondre dans le détail, mais est-ce que tu gagnes ta vie?
Alors oui, je gagne ma vie. C'est vraiment une question importante parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui permettent quand même un peu de pointer le curseur vers où on en est professionnel. Enfin, je fais du chant professionnellement, mais est-ce que je gagne ma vie avec, tu vois?
Oui.
Donc ça, c'est, je gagne pas encore ma vie à 100% avec le chant. Comment dire, là où j'ai franchi un cap, et c'est en fait très très récent, parce que je parlais de 2018-2019 comme le moment où j'ai décidé de me professionnaliser, mais en fait, il y a eu la pandémie. Et mes bonnes intentions de professionnalisation, elles sont restées un peu un vœu pieux pendant, enfin, ou en suspens pendant 2 ans. Et c'est vraiment que la saison dernière que j'ai franchi le premier cap, qui a été de rentrer dans une agence. Ça, pour moi, c'était vraiment bah, c'est un peu un marchepied, et puis c'était un jalon décisif, un marqueur sur le chemin de, je suis en train de réussir à me professionnaliser. Et depuis, j'ai commencé à faire quelques productions dans des théâtres, des scènes nationales, des trucs comme ça. Mais donc je gagne ma vie et je la gagne correctement dans ces moments-là. Mais je ne suis pas encore à un moment où j'ai un calendrier suffisamment rempli pour en vivre tout le temps. Et entre les deux, en attendant que ça d'arriver à un point d'équilibre où ce sera le cas, je ferai que ça. Je fais d'autres boulots à côté, des choses que j'ai gardées sous le coude en prévoyant que ce serait comme ça.
Et tu fais quoi si ça t'embête pas de me le dire?
Non,
T'es pas obligé, hein?
non. Je fais quoi à côté? Je fais plusieurs. En gros, j'ai gardé des attaches avec une activité éditoriale au sens large ou de rédacteur que j'ai un petit qui m'a un petit peu accompagné tout au long de mes études et que j'ai gardé parce que c'est très pratique, c'est flexible, etc. Donc concrètement, je travaille avec des collectivités territoriales. Tu citais mon passage à Metz avec la ville de Metz. Effectivement, ça a été une mission importante qui m'a occupé pendant un an, voire un peu plus. Des projets, des missions d'envergure bien moindre, où je suis vraiment simplement rédacteur. J'écris des programmes de concert, des notes pour des disques. Donc ça, c'est dans le secteur d'activité musicologique, on va dire. Je travaille avec des maisons d'édition comme le Palazzetto Bruzzane, par exemple. Je suis petite main, je fais de la recherche. On appellerait ça peut-être ingénieur de recherche. Mais en gros, je travaille dans des archives et je fais des tâches diverses d'archives. Ça, et puis il y a toujours.
En fait, je voulais te demander, en plus de ça, quel est ton sentiment quand tu dois faire ces tâches? Est-ce que tu dis, est-ce que tu es complètement fine avec ça ou est-ce que tu es un peu aigri quand tu le fais parce que tu dis que ça t'enlève du temps sur ton champ ou est-ce que tu dis, bon, c'est comme ça?
Non, c'est une chouette question. Ouais, là, je suis vraiment dans une phase. Il y a une période où j'étais un petit peu stressé de devoir faire ces choses-là, notamment parce que bah, je n'étais pas du tout serein sur mon devenir. Je n'étais pas serein par rapport à ça. Là, je suis dans une phase bien plus confortable à ce niveau-là, dans le sens où je suis vraiment serein sur le fait que. Enfin, j'ai plus aucun doute sur le fait que l'affaire est lancée, que ça va bien marcher. Je sais que c'est juste une question de temps pour arriver à l'équilibre. Je fais ça au contraire, si tu veux, je fais ça de manière très ponctuelle, un peu quand je veux. C'est vraiment des tâches qui sont flexibles et que je peux organiser comme je les veux. Stratégiquement, c'était quand même dans mon intérêt de garder contact avec ces gens-là, ces activités-là, parce que. Et puis, j'avoue que vraiment, dans cette perspective où je suis plus serein, j'ai plus de. Je suis content de le faire.
Comme moi, on est de la même année, tu vas avoir 40 ans l'année prochaine. Je ne sais pas
Ouais.
quel est ton feeling about it. On se reparle quand tu as 50 ans, j'espère qu'on se verra avant quand même. Qu'est-ce qui ferait qu'à 50 ans, tu te diras, j'ai eu une bonne décennie, c'était une bonne décennie professionnelle. Est-ce qu'il y a des rôles que tu vises, des salles, des scènes que tu vises?
Ouais, complètement. Ben, j'aurais une bonne décennie si j'ai réussi à Effectivement, complètement chanter des rôles que je veux, ou travailler avec des gens, des chefs ou des ensembles qui m'attirent beaucoup, ou chanter sur certaines scènes. Ma direction pour la décennie qui vient, c'est de revenir travailler beaucoup plus en France. Et j'ai envie de. Bah oui, il y a des théâtres dans lesquels j'ai très envie de chanter. Je serais vraiment fier de revenir. C'est un peu sentimental, mais je serais vraiment fier de revenir chanter au Capitole. Enfin, de venir chanter au Capitole.
À Toulouse.
Ouais, et de revenir donc à Toulouse, là où tout a commencé. Et puis aussi parce que c'est une très chouette scène. Ouais, il y a des marqueurs comme ça, des rôles. Par exemple, je pense aborder des rôles comme Figaro dans Les Noces de Figaro ou Don Giovanni, dans Don Giovanni de Mozart. C'est un petit peu les. Ou Golo, ça c'est un peu mon rôle rêvé dans Péléas de Debussy. Donc c'est un peu les prochains objectifs à moyen terme que j'ai d'ailleurs commencé sur les conseils de mon agent, j'ai commencé à les travailler parce que c'est des choses qui se préparent quand même à long terme. Donc voilà, ça c'est des marqueurs clairs à partir desquels je pourrais me retourner et me dire c'était une bonne décennie.
Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans tes études? Parce que on a rapidement évoqué le conservatoire. Bon, les diplômes, c'est pas forcément ça qui dit j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais est-ce qu'il y a des passages de tes études, tu dis non, j'aurais pu zapper ou que tu aurais pu
Oui,
faire autre chose?
je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y a eu des moments très inutiles dans mes études et j'ai vraiment aucun scrupule à dire que Sciences Po, pour moi, c'était juste une. J'ai vécu ça comme une perte de temps considérable. Grosso modo, j'ai pas de regrets par rapport à ce parcours et ces études. Ça fait longtemps que je suis assez en paix avec ce parcours-là, même s'il a pu sembler. Enfin, il y a des méandres, hein. C'était un peu long pour en arriver là, de l'extérieur. Très franchement, je regrette aucune des années que j'ai passées, ni aucun des établissements que j'ai fréquentés, et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal finalement. Non, je trouve que le savoir et l'expérience sont des choses qui sont pas vraiment quantifiables, mais qui sont cumulatives. Que tout ça a laissé des. Il y a une sorte de limon qui s'est déposé au fil des ans sans qu'on s'en aperçoive forcément. C'est pas
Ah,
forcément les
j'adore ce mot.
choses.
J'adore. Tu sais, on parle pas bien
Limon.
français avec Manu. Il y a des mots qu'on n'entend plus. Limon, je trouve ça super beau de le dire comme ça.
Bah voilà, on va le garder alors. Donc dans ce limon, il y a des choses inattendues et c'est pas forcément les choses qu'on apprend dans le moment de l'enseignement et de l'expérience. Voilà, tout ça, c'est un peu sédimenté. Et quand je me retourne, je trouve que c'est vraiment des années d'abord très enrichissantes personnellement, parce que ça a toujours été un choix, bon, mis à part Sciences Po peut-être, mais ça a toujours été des choix que j'ai faits, et je savais, dans le moment où je les faisais, je savais quand même ce que j'allais y chercher, ce que j'espérais en retirer. Et puis il y a eu de belles rencontres aussi, amicales ou intellectuelles, etc. Donc c'est des choses qui font que on se rend compte, je trouve, avec le temps passant, que l'enjeu, c'était pas forcément là où on le pensait. Tu rentres dans telle école parce que tu veux tel diplôme et tel parcours à la sortie. C'est beaucoup moins linéaire que ça. Et puis je trouve que notre génération était assez marquée par cette idée-là d'une sorte de flexibilité.
D'une flexibilité par rapport à quoi? J'ai cru que tu allais dire que notre génération était marquée par le fait qu'il fallait faire des études pour s'en sortir.
Ah, bah ça, c'est un peu la pression avec laquelle on a grandi, mais je trouve que, au contraire, enfin, bon, après, c'est l'effet. On a le nez dans notre génération, forcément, et pas dans les
Ouais.
autres, donc je sais pas vraiment si c'est juste de dire ça, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que je suis rentré dans ma vie d'étudiant avec l'idée qu'il fallait faire des études pour s'en sortir, et puis des études de grandes écoles ou des trucs comme ça. Et en réalité, ce que j'ai appris pendant mon parcours, ça a été qu'il faut suivre son instinct, qu'il faut faire vraiment ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de faire, et pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on fasse.
Bah, regarde, ça nous a mené à deux trajectoires assez différentes, mais on est parti de la même prépa au départ.
Ouais, c'est ça. On est chacun arrivé à un port très différent, mais on est tous les deux, je pense,
En suivant ce qu'on aime,
des
moi aussi, c'était
exemples.
un.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petit?
Très tôt de la musique. Je pense que j'avais 7, 8, peut-être. Ouais, 7, 8 ans. Je voulais faire de la musique.
J'ai une question super importante pour terminer, ma dernière question. Quand est-ce qu'on se revoit?
Avant 50 ans, j'espère.
Dernière fois, c'était en 2019, hein. Avant la pandémie.
C'est, tu vois, il n'y a pas si longtemps à l'échelle de la fréquence à laquelle on se revoit. J'espère venir aux États-Unis en 2023. Donc, à ce moment-là, je me signalerai. Et puis, peut-être en France, à votre passage, à vous.
Écoute, Julien, je te remercie beaucoup.
Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir entendu.
Quand j'ai coupé nos micros à la fin de la conversation avec Julien, on a continué de papoter. On avait plein de choses à se raconter, un peu plus perso. Puis après, je suis revenue un peu sur notre conversation parce que je lui ai dit que j'avais hésité à lui poser une question sur sa vie personnelle, notamment le fait que Julien vit avec un musicien, un pianiste, et je me demandais si ça avait influencé quelque chose sur ses choix. Il m'a répondu que oui, du moins au départ. Ça lui a montré que c'était possible d'être musicien professionnel. Je trouve ça important de souligner tous ces modèles qu'on a dans notre entourage plus ou moins proche qui nous montrent qu'une autre voie est possible. J'aurai l'occasion de parler de qui m'a montré qu'être freelance était une option envisageable alors que moi j'ai grandi en valorisant la stabilité qui passait, selon moi, dans ma façon de penser, par le salariat. Vous l'aurez compris, vous l'aurez ressenti, je l'espère, j'étais vraiment contente de discuter avec Julien. Finalement, j'utilise mon podcast pour « catch up », comme on dit en anglais, avec des proches que j'ai pas la chance de voir aussi régulièrement que je souhaiterais. Ce que je retiendrai de notre conversation, dans le cadre de ma réflexion « What's next », c'est-à-dire dans le cadre d'une réflexion sur la poursuite de carrière, du sens qu'on donne au travail, eh bien, c'est avant tout cette phrase que Julien a dit quand il se présente comme chanteur lyrique, en l'affirmant, je choisis qui je veux être et sous quel jour je veux me présenter. Waouh, 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 waouh. En gros, assumer qui on choisit d'être. J'adore ça à plein de niveaux. L'affirmation de soi sans arrière-pensée, sans jugement. Honnêtement, j'en suis pas encore là du tout pour moi, mais j'y travaille. J'ai bien aimé qu'il parle de suivre son instinct, de suivre ce en quoi on croit et pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on fasse. Même si on a parlé du fait que tirer suffisamment de revenus de l'activité qu'on vise est aussi un bon indicateur d'où on en est. Et puis enfin, puisque c'est mon thème en ce moment sur le récit What's Next, le sujet des études, j'ai bien aimé qu'il parle du fait qu'il regrette rien, même s'il dit qu'il a peut-être perdu un peu de temps, d'apprécier le dépôt de limon qui s'est sédimenté pour constituer qui on est, pour reprendre les mots lyriques de Juju. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette conversation avec Julien Segol? Si vous avez des remarques, des questions, des choses à ajouter sur cette conversation, rendez-vous sur Instagram à What's Next Mathilde et laissez un commentaire sous le post dédié à cet épisode. Dominium Instagram. Vous répondez cette semaine à la question « Quelles études avez-vous faites? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire ?»
Salut Mathilde, c'est Julie, j'ai 42 ans et je t'appelle de Bretagne. Aujourd'hui, je suis freelance dans la communication digitale et j'ai fait des études de communication avec une option plus poussée dans la documentation. J'ai envie de dire j'ai adoré ces études. Après, je pense que voilà, avec le recul, je peux dire j'ai adoré quand j'y étais. J'ai aimé, mais voilà, c'était aussi beaucoup de boulot, donc j'avais peut-être pas autant d'enthousiasme que j'en ai aujourd'hui. Et j'ai aucun regret parce que non, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai peut-être un petit regret. Je me suis tournée vers la documentation, mais je pense qu'en réalité, j'avais un peu le rêve secret et caché d'aller vers le journalisme, mais ça me semblait trop grand pour moi. Si j'ai un regret, c'est peut-être celui de pas avoir osé voir un peu plus grand et m'essayer au journalisme. Voilà, mais bon, il est jamais trop tard, on verra.
Salut Mathilde, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je t'appelle d'Écosse, où j'exerce le métier de guide pendant l'été et autrice pendant l'hiver. J'ai fait des études vraiment en mode deux salles, deux ambiances. La première, eh bien, c'était une prépa-lettres qui était très très douloureuse, pas vraiment rigolote, même si je dois admettre que ça m'a appris à travailler dur et à travailler seule. Et la deuxième partie, eh bien, j'ai fait une école de journalisme, un master. Et ça, c'était vraiment l'éclat. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était une formation très ancrée dans la profession. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je regrette mes études, même si je ne suis plus journaliste. Mais si je pouvais, je retournerais et travaillerais plus dans le monde du web, du côté technique, code, compagnie, tout ça, programmation. Ça aurait été très chouette aussi.
Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses à la question suivante. Avez-vous suivi une formation qui a complètement changé le cours de votre carrière? On ne parle plus des études, on parle de la formation continue au fil des années. Laissez-moi un message vocal sur Instagram à What's Next Mathilde. J'ai hâte de vous entendre.
et vous venez d'écouter le 4e épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Merci à Julien Segol et merci aux participants dans Dormeli et Massagram. Si cet épisode vous a intéressé, si vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute, 5 de préférence, et je vous dis see you dans 2 semaines pour un nouveau podcast et tous les vendredis pour un nouveau récit. Abonnez-vous sur whatsnextmathilde.com. Bye bye!